Pendant toute la journée, il y a eu déjà sur Radio Panique le matin, puis l'après-midi sur Radio Campus, des émissions en direct, mais il y avait aussi des gens dans les rues pour faire des interviews, faire des prises de son. Et Emily était parmi ces personnes. Emily, est-ce que tu peux nous introduire la prise de son qu'on va écouter maintenant ?
Ouais, donc là on va entendre un premier son. Quand on arrive à Schumann, l'arrivée de la marche vers Schumann et l'introduction sur le podium avec, je ne sais plus comment il s'appelait, un espagnol qui représentait la marche européenne. Et après, directement, on va entendre un son d'une action qui a eu, donc qui n'était pas dans le programme et... une action de l'Ocon. Et alors après, on reviendra avec les invités là-dessus, avec Thomas et Laura.
Est possible parce qu'elle est absolument nécessaire.
Autre Europa est possible! Autre Europa est possible!
C'est possible!
We came from Gibraltar and we passed through the fiscal paradise.
Nous voulons, nous pensons que c'est, ça va être l'expérience de la Grèce. Nous dit que changer un seul pays dans ce contexte très difficile. Alors, il faut se lancer, il faut y aller pour changer cette Europe qui nous a déçus. Il faut refaire une Europe basée sur la citoyenneté qui part en fonction des bénéfices et du pouvoir des élites financières. Voilà.
And the marches are not always the beginning of them. The marches are the beginning, the start of a new Europe.
Nous attendons encore des gens qui viennent de la Grèce et qui viennent d'autres pays. Demain, beaucoup d'Espagnols vont arriver ici. Et samedi, on aura la grande manifestation. On veut ces Euromarches 2015. C'est seulement le commencement. C'est le commencement où on dit basta, non, assez, enough. Mais en disant ça, on veut commencer à faire l'autre Europe qu'on veut construire. Ça, ce n'est que le commencement. L'année prochaine, on reviendra avec l'Euromarche 2016.
Donc on est sur l'avenue Béliard, en bas de l'esplanade du Parlement européen, et donc on fait un sitting avec des locons, nous sommes tous attachés, pour protester contre les traités de libre-échange, à savoir le TTIP, le CETA, l'ACTA, qui sont des traités de libre-échange négociés entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe, et qui vont à l'encontre de nos normes sociales, nos normes écologiques, nos lois du travail, qui mettent en place l'ISDS, donc une cour pénale arbitraire qui permet aux multinationales de poursuivre des États, qui installe des nouvelles clauses dans Frontex pour lui donner plus de moyens, qui nous attaque donc sur différents points de vue. Aussi, une clause contre BDS, contre le boycott d'Israël, comme par exemple l'État belge s'était engagé aux dernières attaques d'Israël envers la Palestine. la Belgique avait décidé d'instaurer un boycott sur certaines entreprises israéliennes. Aujourd'hui, si elle fait ça, les États-Unis pourraient la poursuivre en justice.
Mais là même, pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi un locone? Et peut-être, voilà, est-ce que là, ça va passer en direct normalement? Okay. Donc
la situation, nous sommes, alors on a eu des locones qui n'ont pas été disponibles, je ne sais plus totalement combien on est, je crois qu'on est une 8, quelque chose comme ça. Et donc on a nos bras enfoncés dans des tubes, en acier, en acier, tous en acier, comme vous pouvez le voir. Et dans ces tubes, il y a des barres centrales. Et ces barres centrales sont directement attachées à nos poignets, donc on ne sait pas se retirer et on est enfoncé. Et s'ils veulent nous déplacer, ils doivent nous déplacer avec donc un gros bloc de béton qui a été coulé. Et voilà, donc ils ne savent pas nous déplacer.
Sinon, ils coupent.
Mais ils ne peuvent pas couper. Ils ne peuvent pas couper parce qu'il y a nos bras dedans. Et donc on ne peut pas leur assurer. Ok, je déplace mon bras, vas-y, coupe. J'ai dit aujourd'hui donc on est 8 attachés, on a chacun un ange gardien, donc quelqu'un qui s'occupe de nous directement, plus on est entouré d'une petite centaine de personnes qui sont venues installer des barrages un peu plus haut et un peu plus bas sur l'avenue Béliard et qui sont là pour prendre soin de l'action.
Et là, il y avait d'autres endroits qui étaient prévus, qui étaient connus, mais pourquoi avoir choisi ce mode d'action et être venu ici, là, maintenant, c'est stratégique.
Donc, l'Alliance des 19-20, en fait, c'est notre troisième contre-sommet qu'on organise, même quatrième si vous comptez le 15 mai dernier. Et jusqu'à maintenant, on s'est très peu fait entendre, on est resté très raisonnable, on n'a même pas été dans la désobéissance civile, donc vraiment la radicalité la plus basique, on n'a même pas été jusque-là. Et à un moment, tout mouvement a ses limites, tout mouvement a sa patience. Et le TTIP, c'est vraiment quelque chose d'énorme. C'est pas une petite. Enfin, rien n'est petit de toute façon. Mais c'est pas une. Pour eux, c'est un énorme pas en avant. Et pour nous, c'est un très grand pas en arrière. Et ça touche toute la planète. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui, on a décidé d'être plus sévère, en quelque sorte. La police nous a autorisé, comme les deux derniers contre-sommets, des points qui étaient. Faut couper. Ok.
Ok. Et tu penses que ça va durer combien de temps? Enfin, là, il est quelle heure? Et c'est pas. Comme ça, les gens, ils peuvent revenir.
Ah, tant que le TTIP n'est pas annulé, on est là, nous. Hein.
Voilà. Je pense que. On peut parler de l'action, mais peut-être qu'il faut expliquer un tout petit peu le TTIP. Puisque c'était clairement contre ça que le monsieur était fâché. Laura, peut-être, toi, tu te connais bien.
Déjà, pour donner un peu de contexte, je m'appelle Laura, je travaille pour CEO, qui est un observatoire des lobbies à Bruxelles. Et pourquoi cet observatoire se focus sur le TTIP? C'est parce qu'en fait, c'est un des accords où on peut voir vraiment l'influence des multinationales sur la politique européenne. Il faut savoir que pendant 2 ans, on a regardé les rencontres qu'ont fait la commissaire au commerce, donc celle qui négocie pour tous les Européens le TTIP, et elle a rencontré à ce moment-là 88% de ses rencontres étaient avec des lobbies privés. Donc là, on parle des grosses multinationales comme Goldman Sachs, comme BP Shell, comme les grosses multinationales européennes. Et en fait, ce qu'ils négocient, c'est un traité de libre-échange. Un traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne qui est toujours en cours de négociation, qui n'est pas finalisé. Vous me direz, du libre-échange, génial. Non. Déjà, parce qu'en fait, on échange énormément de services et de produits déjà entre les États-Unis et l'Union européenne. Ce traité, il n'est pas vraiment pour augmenter ces échanges. Ce traité, il est là pour mettre des procédures en place pour que les lois n'aillent pas à l'entrave des profits des multinationales. Et c'est pour ça qu'il y a autant de révoltes populaires, mais aussi syndicales. Samedi dernier, il y avait 250 000 personnes dans les rues de Berlin qui étaient contre ces traités. Parce qu'on parle du TTIP qui est l'accord avec les États-Unis, mais il y a aussi un traité. Le petit frère du TTIP, c'est le CETA avec le Canada. Il ne faut pas oublier le petit frère. Donc on est dans un accord, d'abord, qui va permettre aux multinationales de mettre en justice des gouvernements, dans une justice privée. C'est-à-dire que chaque partie, l'État et la multinationale, paient un avocat, parfois jusqu'à 1 000 $ par heure, pour un tribunal privé, une juridiction privée qui a un intérêt à ce que le cas dure longtemps et qui, si l'investisseur gagne, reçoit une compensation. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, Chevron en Équateur. Il y a une énorme sortie de pétrole dans la forêt amazonienne. La Cour suprême équatorienne estime que Chevron devrait nettoyer cette fuite de pétrole puisqu'elle a endommagé la forêt amazonienne, site protégé. Chiffron refuse de payer et va en justice privée. L'Équateur est maintenant obligé de payer l'équivalent de tout l'argent qu'ils reçoivent de la coopération au développement chaque année à Chevron. Et donc vous voyez très bien ici qu'en fait on est dans une justice qui favorise en général les multinationales et qui est accessible comme multinationales. Donc on a un mécanisme parallèle privé qui en fait est là pour protéger les bénéfices des multinationales. Et avant ça, avant que les lois soient passées, ce traité donne le pouvoir de commenter et d'initier les législations par les multinationales. On a ce qu'on appelle la coopération réglementaire. Elle a lieu avant que les parlements de Washington ou de Bruxelles commencent à tabler une loi. Elle a lieu entre derrière, donc on verra pas ce qui passe, on dit c'est vraiment à huis clos. Donc les gens qui vont initier les législations vont se retrouver entre eux, avec beaucoup d'influence des lobbies dans ce conseil de coopération réglementaire, et vont se dire comment va-t-on faire en sorte qu'aux États-Unis et en Union européenne, on ait des lois similaires et qu'on ait des lois qui se passent au même moment. Le souci, c'est que aux États-Unis, leur processus démocratique est fait d'une certaine façon. Nous, en Union européenne, il est fait d'une certaine façon. On n'est pas en train de dire que celui de l'Union européenne est meilleur que celui des États-Unis, mais si on veut préserver ce processus démocratique, si on veut l'améliorer, on ne peut pas accepter que des mécanismes tels, qui soient tellement peu transparents, avec tellement de pouvoir, puissent avoir une influence sur les lois à venir. Parce que ce qu'on parle ici, c'est on va changer les lois futures, mais aussi on va changer les lois qu'on aimerait avoir et qu'on ne verra jamais. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement perdre les droits qu'on a maintenant, tous les droits dont on en a besoin, dont on a besoin pour protéger encore plus les travailleurs, pour la transition énergétique, pour tous les défis de demain, on ne les verra pas, on n'y pensera même pas, elles n'arriveront pas dans les parlements. Parce que les multinationales auront tellement d'outils pour les faire tomber avant même qu'on puisse les discuter. Donc on va restreindre vraiment le pouvoir des États à pouvoir protéger non seulement la planète, mais aussi les travailleurs, les agriculteurs, les consommateurs et les citoyens.
Là, j'ai une petite question. Quand on parle de pouvoir législatif, moi, je pense à des parlements. Mais là, en fait, il s'agit d'un pouvoir législatif qui n'a aucune légitimité démocratique, qui n'a pas été élu. Et comment ça se fait que c'est possible qu'un pouvoir législatif non élu peut prendre le dessus sur les pouvoirs législatifs qui sont en place et qui sont élus?
C'est vrai qu'on pourrait se demander si c'est même légal, en fait. Les deux mécanismes sont presque illégaux. Les entreprises, en général, sont très fortes. Elles vont faire du lobbying directement, mais elles vont faire du lobbying aussi à travers des avocats. Et la position de l'Union européenne que l'on connaît sur la coopération réglementaire est écrite de façon à ce qu'en fait elle soit toujours légale, mais de façon à ce qu'elle permette justement... Par exemple, il y a un droit d'initiation, c'est-à-dire qu'une entreprise, imaginons Monsanto, va voir le conseil de coopération réglementaire et dit « Moi, je ne comprends pas pourquoi les Européens n'acceptent pas ces OGM alors que nous, on les produit. Pourquoi les Européens ne pourraient pas juste accepter nos produits tels qu'ils sont ?» Et ça, ce pouvoir d'initiation, c'est-à-dire qu'une multinationale va pouvoir le proposer au conseil de coopération réglementaire, qui va le considérer et qui lui-même va le proposer ensuite au Parlement. L'initiation en fait des lois à Bruxelles, elle ne se fait pas au niveau du Parlement, elle se fait au niveau de la Commission. Donc en fait, c'est tout à fait légal. C'est-à-dire que ça donne encore plus de pouvoir à la Commission de pouvoir consulter les lobbies pour ensuite proposer des lois au Parlement.
On pourrait dire que le niveau européen est en fait le début de la démocratisation de nos sociétés. Parce que par après, déjà, c'est la Commission européenne qui a le pouvoir législatif. Enfin, qui peut prendre l'initiative, donc ce n'est pas le Parlement, ce qui n'est pas normal, parce qu'au niveau, partout dans le monde où il y a la démocratie parlementaire, c'est le Parlement qui a cette initiative. Donc il y a déjà cette délégitimisation du pouvoir législatif. Et maintenant, on va encore une fois construire là-dessus, pour qu'en fait, que c'est, voilà, la grande société. Mais en fait, je dis une évidence, en fait, je suis en train de répéter ce que tu fais.
Non, il y a clairement une prise de pouvoir de technocrate, non élu à Bruxelles. C'est ce qu'on constate déjà. On le voit tout à fait avec ce qui se passe en Grèce. C'est clairement des technocrates qui ont un jargon très technique, qui décident de la vie des Grecs, alors que les Grecs en décident autrement par référendum. Et là, on va à une étape plus loin. On va dans la pré-législation, c'est-à-dire qu'avant même qu'on puisse considérer une loi, on aura déjà des technocrates non élus avec l'aide des lobbies qui vont décider pour nous ce qui est bon ou pas de faire passer dans un parlement. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau au final, presque, le TTIP. C'est juste la continuation d'une Europe qui se veut de plus en plus technocratique et de moins en moins démocratique.
Tout à l'heure, j'aimerais revenir aux actions d'aujourd'hui. Donc, ma question est, comment est-ce qu'on peut mener des campagnes et mener des actions pour lutter contre ce pouvoir qui est tellement loin de nous, qui n'a aucun... Démocratiquement, on ne pèse pas là dans ce processus du tout. Comment est-ce que des actions, comme aujourd'hui, ou des campagnes, peuvent saboter ce genre de...
Mais déjà, il faut commencer par le postulat qu'on a un pouvoir et qu'on peut faire changer les choses et que toute personne qui est consciente de ces traités... Ça m'arrive beaucoup de parler en public et en général, j'entends très peu de gens qui me disent « Mais non, je ne comprends pas, c'est génial. » Non, en général, plus les citoyens sont conscients et plus ils sont contre. Donc déjà, être conscient, savoir en parler autour de ça, c'est déjà un pouvoir. Et ça, il faut ramener cette idée que on n'est pas sans pouvoir et que c'est pour ça qu'on doit tous et toutes faire comme on peut pour essayer de diffuser cette information. Ensuite, il y a plein de moyens d'action. Il y a une pétition européenne qui a récolté plus de 3 millions de signatures dans les 28 pays européens. Et ça, c'est déjà une victoire. 3 millions de signatures en un an. Et c'est vraiment beaucoup. Ensuite, on a énormément de villes qui se déclarent hors TTIP, hors CETA. On en a beaucoup en Belgique, on en a plus de 400 en France, on en a en Autriche, on en a en Allemagne. Ça commence au Royaume-Uni. C'est peut-être pas grand-chose, mais si beaucoup de personnes d'un même parti, disons par exemple le Parti Socialiste belge, de personnes élues au niveau local, finalement deviennent anti-TTIP, anti-CETA, cette pression va monter au niveau des instances et des leaders. Donc au bout d'un moment, ils devront l'écouter. Certes, on ne peut pas directement aller voir la commissaire et essayer de faire pression là, mais on peut faire pression au niveau local pour essayer d'avoir justement une influence européenne.
Mais quand même, c'est ce qu'on a essayé de faire exactement aujourd'hui, c'est mettre la pression sur la Commission européenne. Donc je ne sais pas, on peut peut-être basculer vers les actions d'aujourd'hui.
Thomas, hein, directement, vu que tu étais dedans, ben voilà, voir un peu comment...
Comme ça fait un petit temps que je suis sensible à ces questions-là et que je partage l'impression que ce traité va avoir des conséquences fort négatives, je partage aussi l'avis qu'il y a plusieurs modes d'action et que bien souvent on peut passer beaucoup d'énergie à discuter sur quel est le bon mode d'action et que ce que je pense, c'est que c'est la complémentarité des modes d'action qui peut donner une chance de réussir. Dire aussi que des traités comme ça, il y en a déjà qu'on a réussi à saboter. Quand je dis nous, c'est les citoyens. Il y a des traités qui étaient prévus qui ne sont pas passés. Donc c'est possible. Donc samedi, il y a une grande manifestation qui est un mode d'action qu'on connaît tous et qui est un mode d'action important. Et les personnes qui ont agi aujourd'hui, la plupart, je le sais, seront présentes samedi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une série de personnes ont choisi un mode d'action différent qu'on associe à ce qu'on appelle la désobéissance civile. Et du coup, l'idée était de mener une action illégale en bloquant un axe, en l'occurrence la rue Béliard, sans avoir l'autorisation de la police. Et moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que je ne faisais pas partie de... J'étais pas dans les petits papiers, parce que ce genre d'action comporte, par son illégalité, une certaine dose de secret. Mais je savais que ça se faisait. Et en arrivant à l'endroit, j'ai rencontré des amis qui étaient un peu mieux au courant et qui m'ont dit « Viens avec nous, on doit emmener du matériel à tel endroit, on doit se préparer. » Et du coup, on était un peu cachés en attendant l'heure à laquelle on devait amener ce matériel, en l'occurrence pour monter des barricades. Et c'était assez d'abord excitant, mais on se posait la question de savoir « Oui, mais est-ce qu'on sera 10 pour monter notre barricade qui ne ressemblera à rien ?» Et puis, au moment, à l'heure fixe, quand on a amené ce matériel, on a vu débarquer de partout toutes sortes de gens. Et pour finir, en très peu de temps, on a quand même bloqué un axe routier important de Bruxelles pendant plusieurs heures, ce qui, je pense, est un moyen de faire parler de cette problématique. Et petite anecdote pour raconter un peu l'après-midi, c'est qu'à un moment, un jeune gars vient me demander du feu, il me parlait en anglais. Et il me dit qu'il est slovène et qu'il est membre d'une radio alternative, libre et militante de Slovénie. Il me disait d'ailleurs que c'est une des plus vieilles radios européennes libres. Et il me dit mais vous êtes qui en fait? Alors je lui dis bah, écoute, il y a un peu de tout ici. Oui, mais je crois que vous êtes des gens de syndicats. Ben, je dis il y en a qui sont liés à des syndicats. Et puis c'est qui les gens là avec des trucs verts? Ah, je dis ça, c'est un groupe de jeunes d'un parti belge. Ah, il y a des gens de parti. Et c'est quoi là, JEC ? Alors je lui dis, ça c'est les jeunesses ouvrières. Quoi ? Il y a des chrétiens, il y a des catholiques ? Alors je dis, bah, oui, en tout cas dans le nom. Et quoi, il y a des anarchistes aussi ? Alors je lui dis, bah, oui, je pense qu'il y en a aussi. Et du coup, c'est vrai que je pense que l'intérêt de ce type d'action, c'est que toute une série de gens qui ne partagent pas forcément de A à Z le rêve de la société idéale sont mis d'accord sur une action directe, on appelle ça aussi des actions directes parce que ça porte bien son nom, et que je pense que ça sert. Ça ne veut pas dire que ça ne sert pas de manifester samedi, ça sert aussi, mais c'est un autre moyen d'action qui, je pense, a du sens.
Et si je peux juste réagir, quelque chose qu'il faut noter, c'est qu'on... Elles sont peut-être illégales, mais en tout cas, elles ne sont pas violentes. Enfin, on n'a rien cassé. Les gens étaient totalement pacifiques. Et quand on a eu la police au téléphone, on a entendu l'attitude belliqueuse des manifestants. Mais j'aimerais beaucoup qu'ils me montrent des photos d'une attitude belliqueuse parce que j'ai trouvé que c'était pacifique. C'est comme tu dis avec le Slovène, avec des gens différents. Vous étiez tous ensemble concernés par quelque chose qui, en fait, touche tout le monde, même les policiers. Et donc, c'est très important de notifier ça, justement, le côté... Peut-être que c'est illégal, mais c'est pas forcément violent, parce que c'est toujours comme ça qu'on essaye de le portrayer, alors que c'est pas du tout le cas.
Et ça m'amène aussi quand même à dire que la fin était moins joyeuse. Il y a eu beaucoup de discussions sur le fait de rester ou pas, sachant que les personnes qui se réunissaient, les parlementaires européens, étaient réunis. Et donc, pour finir, le consensus a voulu qu'on décide de partir de l'endroit, donc de défaire le blocage. Et à ce moment-là, on a voulu prendre un axe, on nous a interdit d'accès, on a voulu en prendre un autre, on nous a dit non. Et pour finir, on en a pris un troisième. Et il y avait une fanfare avec nous. Et on a marché comme ça pendant quelques rues, chaque fois guidé par un policier qui disait par où on pouvait aller. Et il faut quand même signaler qu'à la fin, on s'est fait prendre en étau. On n'était plus qu'une cinquantaine à ce moment-là. Et on s'est fait littéralement piéger. Et que pour moi, c'était pas une première d'avoir affaire à la police, mais ce qui était une première, c'est de recevoir des coups. On est à la radio, mais je pourrais vous montrer mon mollet qui s'est pris un coup de matraque, alors que les gens jouaient de la musique, les gens avaient les bras en l'air, et que j'ai rarement vu un groupe comme ça aussi convaincu de l'intérêt de son action, qui était une action directe, avec une certaine dose de radicalité, c'est des gens convaincus. Mais tout le monde était les bras en l'air, en train de jouer de la musique, et on criait tous « nos violences ». Et on s'est pris, on n'est pas très nombreux, mais on s'est pris des coups de matraque. Et sincèrement, je savais que la police parfois faisait ce genre de choses, mais le fait de le vivre, c'est vrai que c'est impressionnant. On se dit « mais... » Moi, je regardais les policiers, mais je disais « mais pourquoi vous faites ça ?» Et enfin, voilà. Et petite anecdote, et puis peut-être j'arrête. Mais à ce moment-là, quand on a été pris en étau, on était collés contre un bus, qui du coup était lui-même arrêté. Et du coup, moi, je regardais les gens, parce que j'étais collé à la vitre du bus, et je regardais les gens à l'intérieur du bus, et je leur faisais signe avec mes doigts sur les yeux, en disant regardez ce qui se passe. Et un monsieur qui était juste derrière la vitre a mis sa main sur ses yeux pendant quelques secondes. Et je me suis dit, merde, c'est pas gagné. Mais je trouvais que le geste était assez interpellant, assez visuel pour le coup, même si on a la radio. Enfin, voilà.
Et par rapport au dernier blocage d'il y a un an, moi je me disais c'est un peu c'est une réussite, il y a une solidarité comme ça qui est en train de se construire et d'un accord commun comme ça dans le mouvement de toutes les personnes, même si voilà, tout le monde ne se positionne pas dans le même genre d'action. Mais moi qui étais là et quand on est arrivé au début avec la marche, il y a plusieurs personnes qui disaient mais tout le monde n'est pas parti en même temps, et on n'est pas beaucoup, on est dispersés, il y avait un peu un sentiment de perdu. Et je pense le fait qu'il y a eu, il y avait d'autres actions qui se préparaient, ça a redonné un sens d'être là et d'avoir un impact vraiment sur ce qui était en train de se passer, sur le sommet, et d'avoir une réelle perturbation et pas de rester dans, comme tantôt il y en a qui disaient, dans un labyrinthe dans lequel on est autorisé et qu'on nous fait suivre gentiment. Voilà.
Mais la diversité, c'est clairement la réussite d'aujourd'hui, puisque c'est une diversité dans les modes d'action, comme on a entendu. C'est une diversité dans les personnes qui étaient présentes. On avait des Belges, des Espagnols, des Italiens, des Grecs, des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes. C'était dans ce sens-là très divers. Et également des thèmes, parce que là, on parle du TTIP, mais il y avait aussi la coalition des sans-papiers. Il y avait aussi des syndicalistes qui étaient là pour plus un droit du travail. Il y avait aussi des gens qui étaient là contre l'austérité, contre la pauvreté. Donc, on avait une diversité de modes d'action, de personnes présentes, mais également de thèmes, parce qu'en fait, on converge vers l'idée que l'Europe qu'on a maintenant ne bénéficie pas du tout au peuple. Et donc, ça, c'est vraiment une force, cette diversité.